Comment pousser les bords du monde?
I'm just average common too, just like him, same as you.
Bob Dylan.
Well, slowly when you're trying to be so good, you walk into the room.
Comment pousser les bords du monde?
With your pencil in your hand.
Un feuilleton de François Bon.
I was shadow boxing early in the day. I figured I was ready for Cassius Clay.
By Bob Dylan.
For the times, they are a-changing.
14, Grande Panne et Matin Neuf. Est-ce que c'est encore à cause de Rimbaud? Ou qu'on puisse dresser la vie de Dylan et la vie de Rimbaud en parallèle jusque dans le déni de poésie, le retrait? Aujourd'hui, le harare de Bob Dylan, l'éloignement, le désert. Cela compte toujours pour lui, Rimbaud. Faisant connaissance avec Patti Smith, et découvrant qu'elle parle un peu français, c'est ce qu'il lui demande. « Tu lis Rimbaud en français ?» Ces deux premières années de son harare, Dylan les a plutôt bien traversées. La grande maison dans les collines, les enfants qui naissent et grandissent, le studio de musique qu'on y a installé dans une pièce peinte en rouge. Et puis maintenant que Dylan est revenu dans le jeu, maintenant qu'on diffuse cette image de l'artiste génial mais reclus, on vient de New York pour le voir. On aperçoit des types grimper dans les arbres pour voir ce qui se passe dans la maison. On en retrouve même une fois dans le salon et dans les chambres. Ils ne faisaient rien de mal, ils visitaient, disent-ils. Et quand Dylan part en voiture, toujours un curieux pour le suivre. On déménage, mais il le vit durement. On s'installe de l'autre côté de Woodstock, dans une maison encore plus grande et entourée d'un parc protégé avec une voie privée. Non plus chez les artistes, mais chez les hommes d'affaires. Alors il tourne en rond dans sa cage. C'est la panne. On trouvera des dérivatifs. Dylan ne connaît pas la mer. On s'en va, mais sans partir. Long Island, c'est l'île qui touche New York. Elle est bordée côté Atlantique d'un long cordon de dunes et de plages où les voitures sont interdites. Fire Island. On peut marcher seul sur le rivage. Il peut même jouer dans les bars, avec les musiciens qui font l'ambiance. Personne ne s'occupe de lui. Une fois, deux gamins sortent en plein milieu d'une chanson. Lui, quand même, il est vexé. C'est que les gamins avaient pris du LSD, année Woodstock, le festival oblige. Et soudain, disent-ils, ils croyaient voir Bob Dylan dans leur hallucination. Le festival de Woodstock, tout le monde l'y attend. Puisqu'après tout, c'est là qu'il vit. Il n'ira pas. Mais d'abord parce qu'il est l'invité d'honneur de l'île de White. C'est lui qui conclura les trois jours de musique. White, l'île tout au sud de la vieille Angleterre, veut jouer avec la légende. Dylan d'abord est réticent. Mais les Britanniques accepteront toutes les conditions. Et d'abord le cachet exorbitant, $50,000. Exactement 10 fois le cachet des Who, qui jouent le soir précédent. Voyage avec femme et enfant sur le Queen Mary 2. Puis 15 jours de répétition dans une ferme louée à son usage exclusif, à proximité même du festival, avec les musiciens de The Band. Mais tout ira de travers. En s'installant sur le paquebot, l'aîné des gosses, Jess, glisse et se cogne à la tête. On devra débarquer, et 3 jours plus tard, prendre l'avion comme tout le monde, mais juste Sarah et Bob, sans les enfants. On aura 3 jours pour répéter avec The Band, mais à peine on commence, qu'un hélicoptère se pose. C'est les Beatles, venus en visite, et décidés à rester jusqu'au concert. On boit, on fume, on fait vaguement sonner les guitares. On est les premiers au monde à écouter Abbey Road, le dernier des Beatles. Quand Dylan monte sur scène, ils joueront ce que le contrat leur demandait, 1 heure minimum, juste 1 heure. Il est déjà tard dans la nuit, dans la fatigue de 3 jours de musique et d'insomnie. Mais il y a soudain 200 000 personnes devant eux. Rappel à la guitare acoustique et au revoir. On a cru à du cynisme, mais non. C'est que Dylan et son groupe n'auraient pas su faire plus. John Lennon dira, mais les Beatles n'ont jamais été des tendres, un bon concert, juste un peu plat. Dylan est secoué par Abbey Road. Secoué sans doute aussi par la grande vague qui suit le festival de Woodstock. Les musiques qui naissent sur la côte ouest, Jefferson Airplane, les Doors, les Grateful Dead. Tous ces gens-là, lui, il entend bien ce qu'ils lui doivent. Mais alors il n'existe plus. La faute à la campagne, pense-t-il. Son énergie lui venait de New York, McDougal Street, entre le Gaslight et le Gerds. Alors, Lady Lane achète une maison en plein Greenwich Village. Une petite maison new-yorkaise, la cour partagée avec les trois maisons voisines. Ce sera bien pour les enfants. On n'aurait jamais dû faire ça, dit 2 ans plus tard Bob Dylan. C'était tout de suite invivable. On est McDougal Street, la même où il a commencé, mais devant la maison, le samedi, il y a des groupes avec des pancartes. Dylan, reviens. Et si on joue de la guitare ou si on invite du monde, c'est les voisins qui vous tombent dessus. La panne, toute l'année 70, toute l'année 71, et pas beaucoup mieux les deux suivantes. Il publie enfin son livre, Tarantula, d'après un passage du Zarathoustra de Nietzsche. On s'en est beaucoup moqué, on a ri de Dylan, en disant que s'il était un magnifique auteur de chansons, pour la prose il ne valait rien. Moi je le trouve parfois surprenant, Tarantula, avec ses proses brèves, qui aujourd'hui, à 35 ans de distance, nous semblent bien moins incongrues d'avoir appris à lire Michaud ou Kafka. Il n'aurait pas fallu laisser ce livre aux critiques rock. Les États-Unis, c'est pas à l'abri du son. Vous pourriez croire que rien ne peut atteindre ces dizaines de milliers qui vivent derrière le mur du dollar, mais votre crainte peut produire la vérité. Image, petit fermier, caleçon long, galure en peau de raton laveur, s'étranglant avec sa chaussure, sa femme, trébuchant sur les crânes, ses cheveux en queue de rat, leur môme porte un scorpion, le scorpion porte des lunettes, le môme, il boit du gin, tout le monde, des ballons collés aux yeux, qu'ils n'iront jamais faire bronzette au Mexique, et est évident, envoyez votre dollar aujourd'hui, mettez-vous en quatre, ou fermez vos gueules, pour toujours. Bob Dylan, Tarantula, traduction Daniel Bismuth, irresponsable fracas nocturne. Oh, the benches were stained with tears and perspiration. The birdies were flying from tree to tree. There was little to say, there was no conversation. As I stepped to the stage to pick up my degree. And the locust... À New York, au studio, il retrouve les anciens copains musiciens comme Al Cooper ou Dave Bromberg. Mais l'album Self-Portrait, Autoportrait, est un loupé. What's that shit? Demandera Grill Marcus dans le New York Times. Des reprises, enregistrées en direct, sans retouches, et qu'on envoyait telles quelles à Nashville pour être bricolées par Charlie McCoy avant livraison. Une parodie, dira Dylan. Qu'ils comprennent que ce qu'ils attendaient de moi, c'était fini. Mais en même temps, la légende le poursuit. C'est maintenant qu'on découvre le travail effectué avant l'accident de moto. Les disques pirates de la tournée de 1966 se succèdent. Et quand en octobre, 4 mois après le raté de Self-Portrait, il sort son disque New Morning, Un Nouveau Matin, tout le monde dit qu'on a retrouvé Dylan. Comme il aura toujours cette capacité d'offrir en une chanson un monde d'hallucination, un rythme obsessif. En attendant, dit New Morning, le temps passe lentement. En attendant The New Morning, un écriteau à la fenêtre dit « tout seul ». En attendant The New Morning, l'homme qu'il y a en moi se cache. Dylan a livré ses 4 albums à Columbia. Il a rompu avec Albert Grossman. Il n'a plus rien à dire. Ce silence de 2 ans, début des années 70, est-ce qu'il n'était pas nécessaire pour repartir depuis une vraie rupture? Les étapes de la Renaissance sont d'autant plus repérables qu'il s'agit d'événements très précis dans le temps. Pour le fond, silence. Les amis de Dylan disent qu'à Woodstock, dans la grande maison isolée, sur le pupitre, il y a une Bible ouverte. Les images, les métaphores dans les années à venir, mais c'était déjà le cas depuis longtemps, en viendront souvent. Mais si c'était seulement parce que se joue dans le livre des livres une origine des images, des métaphores, une légende qui ressemble à ce qu'est toujours le monde dans sa furie, son aveuglement et son bruit. C'est parce que le vieux monde n'en finit pas de s'interroger sur son rapport à la religion, à ses peurs, qu'on voudrait bien que les prophètes qu'on se donne soit aussi dans cette interrogation. Bob Dylan assume sa judaïté, et particulièrement après le décès de son père. Avec Sarah, ils partent en voyage en Israël. Quel touriste n'irait pas se recueillir devant le mur des Lamentations ? Le photographe qui prend à cet instant Bob est un humble marchand d'images. Il découvre seulement à son retour au labo qui il a photographié. Mais cette photo-là fera le tour du monde. Comme plus tard, Bob serrant respectueusement la main de Jean-Paul II. Est-ce qu'on devient mystique pour autant ? Prophète pour autant ? Il est sûr que Dylan cherche, se cherche. Il a des discussions avec un kibboutz. Il se verrait bien vivre là un an, dans les orangers, les enfants à l'école, autour de lui les lieux de la Bible. Et enfin cette paix qu'on lui refuse à New York. Mais il demande quand même, et prêt à payer pour ça, d'être dispensé de travail. Lui, son travail, c'est à la maison, entre les livres et le piano. Refus. Il n'y aura pas d'intermède kibboutz. Il y a le concert que George Harrison monte en soutien au Bangladesh. On enregistrera un double album. C'est la générosité de l'ancien Beatles. Harrison demande à Dylan s'il voudra bien chanter « Blowin' in the Wind ». Dylan répond agressivement « Et toi, tu chanteras « I wanna hold your hand » ?» Quand on doit répéter, Dylan est assailli par les caméras de télévision. Il tourne le dos, il s'en va. Toute la première moitié du concert, sur sa liste, Harrison a écrit « Bob » avec un point d'interrogation. Mais Dylan est là au bon moment. Et mieux, il chante « Blowin' in the Wind ». Reste 20 minutes sur la scène. On est le 1er août 1971. En novembre, découvrant dans les journaux l'assassinat, un de trop, d'un militant noir en Californie, George Jackson, en 3 semaines, il écrit une chanson et en fait un 45 tours, version acoustique d'un côté, version groupe de l'autre. Mais de tout 1972, on ne sait rien. Dylan a un bateau de 19 mètres. Il navigue. Quelques apparitions. Par exemple, en visite chez Allen Ginsberg, le poète lui met d'office une guitare dans les mains et branche un magnétophone. Colère de Dylan, tu arrêtes ce truc ? Mais le lendemain, il vient l'épauler en studio. Sauf que Ginsberg, qui se prend pour un chanteur, ce n'est pas très concluant. Et c'est aussi une stratégie. L'année suivante, Dylan sera officiellement débarrassé de Grossman et de Columbia. Alors voilà, vacances et faire attendre.
Beans. Beans. Spinach. Eastern.
Du temps pour son rêve de gosse. Acteur de cinéma. Quand Sam Peckinpah lui propose d'écrire la musique de son crépusculaire western, Pat Garrett and Billy the Kid, il fonce. Il figurera à l'écran une sorte d'idiot du village.
Beans.
Comptant des boîtes de conserve. Et pour le tournage, on s'en va ensemble sur la côte ouest. On retrouve à Los Angeles The Band. C'est 1973, l'année de la reprise d'élan, 7 ans après la tournée des sifflets. Les Dylan louent une maison, puis s'achètent un terrain près de Malibu.
Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down.
Et si pour 1974, il signe un contrat avec les disques Asylum, mais il n'y aura qu'un seul disque, après il reviendra chez Columbia, décide de repartir en tournée avec The Band, qu'on répète, ça fonctionne, on enregistre. Ce sera Planet Waves. On loue l'avion qui a servi à Led Zeppelin, Starship One, et on part en tournée. La vie à la campagne pour Dylan, c'est fini. Avec la tournée revient forcément la cocaïne, revient l'alcool. Un soir à Chicago, il finit la nuit avec une jeune femme, Ellen Bernstein. Les 5 ans à venir seront la longue queue de comète, divorce d'avec Sarah, crise intérieure majeure, un Dylan instable, mais qui aura renoué avec l'écriture, avec son personnage. l'album de son vrai retour, du sang sur le vinyle, Blood on the Tracks.
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue.
Puis la Rolling Thunder revue. Ce rêve un peu fou, mais un vrai rêve saltimbanque. Ça va mal avec Sarah. Elle reste avec les 5 enfants sur la côte ouest et lui vit la nuit à New York. Il retrouve les petits clubs où continuent de jouer les copains de l'arrivée à New York. Ramblin' Jack Elliott, Phil Ox. Les gens qui écoutent n'en reviennent pas. Le petit bonhomme effrayé, là, avec sa guitare, qui joue l'accompagnement, c'est la star, c'est Bob Dylan. Et sur le trottoir de McDougal Street, il repère plusieurs fois la silhouette bohémienne d'une grande fille portant un violon, sa chevelure tombant vers le milieu du dos. Scarlett Rivera. Il ne sait pas comment elle joue, n'a que cette silhouette dans la tête et lui propose de venir en studio avec lui. C'est Desire, Désir. Bizarrement enregistré, en convoquant à l'ancienne, dans les studios Columbia, les musiciens d'Eric Weisberg, le banjoiste de Deliverance. Alors que l'album est prêt à sortir, il le réenregistre en 3 jours à Minneapolis, où il vient de s'acheter une ferme pour y aménager un atelier de peinture. Son frère David à la console de mixage, en embauchant des musiciens locaux, moins de 3 semaines avant la sortie du disque.
This song is called Hurricane. If you got any political pull at all, maybe you can help us get this man out of jail, back onto the streets.
L'idée de la Rolling Thunder Revue, ce printemps 1975, on débarque, sans dire qui on est, dans une petite ville, à la salle des fêtes du dimanche. Et les braves gens verront débarquer devant eux Allen Ginsberg et une bande de musiciens qui sont parmi les meilleurs d'Amérique, dont T-Bone Burnett, un type qui fait 2 mètres de haut, ou Roger McGuinn, des Byrds, ou Bob Neuwirth, le copain, le complice de 1965. Et tout d'un coup, derrière le rideau, on entend Blowin' in the Wind, chanté en duo par 2 voix qui pourraient être celles de John Baez et Bob Dylan, et c'est eux pour de vrai. On filme tout. On a même Sam Shepard pour faire un vague scénario sur les scènes qu'on improvise. Dylan est redevenu ce qu'il était au départ et qu'on l'a empêché d'être. Ce musicien sur la route.
Jean-François Néolier, Julien Douminc, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guay, Comment pousser les bords du monde, Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté, par François Bon. Demain, 15e et dernier épisode, la tournée qui ne finit pas, The Tour That Never Ends.